Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix. Sylvain Matundu assure la mise en onde de cette émission et Tati Mapoukou est à la réalisation. Nous avons Marcel Ngomobal à la coordination sous la supervision de Nicole Ngaka au micro J.R. Lungembo. Excellente condition d'écoute à tous. Conséquences de l'arrangement à l'amiable en cas de violence sexuelle, nous en parlons avec Germaine Tenelombe, point focal protection et Tenelombe. Ah ben voilà, j'ai massacré ce nom, ce n'est pas Tenelombe, c'est plutôt Penelombe. Point focal, protection et prévention des violences sexuelles au ministère des Affaires sociales. Madame, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans les contextes socio-économico-politiques actuels, est-ce réaliste de passer par l'arrangement à l'amiable en cas de violence sexuelle?
Non, je ne le crois pas, mais ce qui arrive, je crois, c'est suite à l'ignorance. Les gens ne savent pas quelles sont les conséquences d'un viol. Un viol sexuel peut amener beaucoup de choses sur le plan sanitaire, sur la psychologie de la personne. Et l'ignorance fait que les gens pensent que ça peut se faire, ça peut s'arranger, en oubliant ce que ça rapporte sur la personne qui a été elle-même violée.
Alors aujourd'hui, nous entendons parler des cliniques juridiques. Est-ce une approche efficace pour finalement décourager les auteurs du viol?
Oui. Elle peut amener, les violeurs peut-être à revoir leurs actes, mais surtout c'est encourageant si les femmes savent où elles peuvent trouver ces cliniques juridiques qui peuvent les amener, qui peuvent les aider à porter plainte contre les présumés auteurs de leur viol.
Donc, dans bien des cas, les cliniques juridiques inquiètent les bourreaux.
Oui, parce que si jusqu'aujourd'hui ça continue, ça persiste, ce phénomène, c'est parce que souvent l'on croit que ce n'est pas punissable. On a vu rarement des gens qui ont été punis, qui sont emmenés en prison parce qu'ils ont commis un viol.
Oui, Madame Tenelombe, j'aimerais bien peut-être que nos auditeurs qui nous suivent en ce moment puissent avoir un cœur net hein, par rapport à ce que nous disons. Et surtout, bon nombre ne savent pas qu'aujourd'hui, il existe des lois, il y a une loi qui a été promulguée même pour contre les violences sexuelles depuis le mois de juillet 2008. Alors aujourd'hui, concrètement, que dit cette loi par rapport au viol, par rapport aux violences sexuelles? Et qu'est-ce qu'on peut appeler violences sexuelles par rapport à cette loi?
Bon, violences sexuelles...
Parce qu'on en parle, même des attouchements, même, je ne sais pas moi, le fait de donner des cadeaux à des mineurs, ça constitue quand même, ça peut être mis dans le lot de violences sexuelles.
Vous me demandez plusieurs questions
voilà.
À la fois.
Ouais.
Mais je crois que, si je peux commencer par la toute dernière, donner un cadeau.
Ouais.
Si c'est un cadeau qui est donné sans arrière-pensée, c'est bon. Mais si c'est un cadeau dans l'esprit de pouvoir influencer la personne ou la fille devant vous, pour que demain, lorsque vous allez poser cet acte, qu'elle soit persuasive, c'est déjà un délit.
Ouais, un cadeau qui constitue un appât,
c'est pas bon. Bon, mais violence sexuelle, c'est lorsque on force une personne à commettre un acte auquel elle n'est pas d'accord. Une personne, une femme, il n'est pas défendu peut-être de demander la main d'une femme, une jeune fille.
Une mineure?
Non, je suis en train de parler d'une fille majeure.
Majeure, dans la
une jeune fille, à partir de 18 ans, la plupart s'attendent au mariage, c'est pas tout le monde qui va dans le couvent. Donc, elle peut attendre un fiancé. Et un fiancé ne viendra pas sans peut-être pouvoir discuter avec elle, lui donner des cadeaux. Mais, lorsque, sans qu'une négociation ait été faite, vous posez cet acte avec, donc sur cette personne-là, c'est un viol. C'est un viol. Et je crois que le travail de terrain a déjà commencé sur la sensibilisation sur ce phénomène, mais ce n'est pas suffisant. Je remercie Radio Okapi par rapport à ce que vous faites. Là, vous êtes comme une sonnette d'alarme. Même si nous voulons oublier, même si les autres veulent oublier, mais vous venez sonner cette, vous venez tenir la sonnette pour rappeler que les violences existent et que les violences ont une conséquence sur tant sur la personne, sur la communauté, sur la famille.
Oui, et les violences ont des conséquences sur la personne, également sur la communauté. Mais nous remarquons aujourd'hui la pratique, elle est devenue peut-être monnaie courante, les gens qui préfèrent passer à l'arrangement à l'habillable. Vous avez d'une part l'auteur du viol et de l'autre la victime. Ben alors, les deux familles, pour raison par rapport à la culture, par rapport à notre culture, on veut plutôt garder secret cette affaire. On passe à l'arrangement à l'amiable. Est-ce une bonne façon de faire?
Ce n'est pas une bonne façon, je crois. Si nous lisons très bien la loi sur les violences sexuelles, comment on appelle ça, l'arrangement, disons, l'amende transactionnelle est défendue. Est défendue parce que il n'y a aucun arrangement qui peut être fait lorsque une personne a été violée. Quelles sont les conséquences? Je crois que si cet arrangement peut-être peut être proposé par les juges ou les magistrats, mais les juges ne sont pas des médecins, les juges ne sont pas des psychologues pour pouvoir évaluer le désastre que cela a pu causer sur la personne qui a été violée. Les conséquences sont énormes et peuvent durer prendre toute une vie. Une fillette qui a été violée, elle garde cela dans sa tête pour toute sa vie et elle peut même haïr le mariage parce qu'elle aura peur de chaque homme qui se présente devant elle. Elle croira que c'est un bourreau qui vient le faire mal. Une femme, même adulte, qui a été violée, qui demain va quitter son foyer parce que son mari ne veut plus d'elle parce qu'elle a été violée, qui doit abandonner sa famille. Et même si son mari acceptait de vivre avec elle, quels sont les regards que vont porter la belle famille sur elle? C'est désastreux. Et moi, j'ai compris que ceux qui ont préparé la loi ont compris eux aussi pour dire que l'amende transactionnelle ne peut pas être acceptée en cas de violence sexuelle.
Donc, si je comprends bien, la loi sur les violences sexuelles n'autorise pas cette procédure, ce moyen pour sortir de cette affaire de violence sexuelle.
Ouais. La loi ne l'autorise
pas. Et ceux qui le font, est-ce que la loi peut les sanctionner?
Bon, n'étant pas du domaine juridique, ouais, je ne saurais pas répondre directement à votre question.
Un point focal, vous avez peut-être reçu certains cas, des cas qui sont allés et qui ont été importés à la justice, et vous avez peut-être une idée comment, peut-être, bon, comme on dit dans la jurisprudence, il y a des cas qui se sont soldés en faveur de la victime, il y a d'autres par contre, parce que le bourreau il est puissant, et la justice est allée dans le sens de donner raison au bourreau.
Bon, je ne connais pas de cas qui ont été portés à la justice, mais je connais des cas qui ont été commis sur des enfants dont les familles ont préféré arranger à l'amiable, soi-disant pour protéger, par pudeur, pour l'enfant qui grandit, parce que sinon il sera indexé par ses amis, ou bien pour des raisons, mais que je dis c'est l'ignorance. Elles ne comprennent pas. Nous ne comprenons pas, c'est l'ignorance en tout cas. On ne peut pas comme ça, parce que par pudeur, mais déjà, la pudeur, vous pensez par rapport à vous, parce que vous êtes peut-être sa maman, vous êtes une personne qui la tenait en charge, mais elle, ce qu'elle a subi, ce préjudice-là,
moral, elle va grandir tout au long de sa vie.
On n'a pas calculé les désastres que cela pose. Alors, moi, je croirais que si on pouvait peut-être, au cas où l'on savait que telle famille a pu accepter un tel arrangement, le déférer devant la justice, ce serait aussi un bon exemple pour décourager ceux qui pensent de cette manière-là.
Oui, alors dans le cas, quand c'est un homme puissant, l'influence est facile, hein, c'est ça, madame. Parce que quand on est puissant, on a de l'argent, on a des moyens, et la justice devant les moyens, parfois, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas d'autant plus puissante que la personne puissante elle-même qui dirige aussi la justice. Tout le monde est devant la loi, mais...
Vous me voyez sourire et hésiter parce que quand je dis un homme puissant, mais un homme puissant qui viole, comment faut-il le prendre? Est-il délinquant ou est-il déviant? Est-ce un honneur, malgré votre puissance, de violer? Parce qu'avec la puissance, je ne sais pas, vous pouvez prendre une femme honorablement et la prendre en mariage à l'âge adulte, donc une femme qui peut être mariée, mais pourquoi passer par ce chemin si court, si pervers?
Voilà, Madame Germaine Pénélombé, vous êtes le point focal protection et prévention des violences sexuelles au ministère des Affaires sociales. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir leurs préoccupations au 081 890 63 94 pour les appels et au 081 070 20 50 pour les SMS. Nous avons Bonnie Ngala Mouloumé qui est déjà en ligne. Bonnie, que nous allons recevoir d'ailleurs dans quelques instants, mais tout en vous disant que vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Bas-Congo.
Quel bilan faites-vous à ce jour du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Bas-Congo, prenez rendez-vous avec toute l'équipe PA le mercredi 8 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. C'est Bonnie Ngala Mouloumé de Kinshasa. Merci de nous rejoindre. Bonjour Bonnie.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Ma question était de savoir est-ce qu'on peut parler de violences sexuelles pour une femme qui a 30 ans, par exemple 32 ans, 34 ans jusqu'au-delà. Est-ce que peut-on aussi, on l'a violé?
Merci Bonnie. Donc si je comprends la question, une femme déjà majeure, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut parler de violences sexuelles?
Bien sûr, si, c'est que, comme on l'a dit précédemment, si vous n'avez pas négocié cet acte, si vous n'avez pas été galant pour pouvoir poser le problème comme il le faut, et que vous la forcez parce que peut-être elle est sous votre influence ou parce que vous pensez que vous êtes plus fort que lui, c'est un viol.
Mais, madame, la loi, elle est aussi très dure cette fois-ci, parce que même des simples attouchements, on les met dans les comptes de violences sexuelles.
Lorsque je donne un exemple très banal, un enfant qui va à l'école primaire et que son maître commence à faire des attouchements sur sa poitrine et sur son sein, cette petite fille qui ne connaît encore rien, est-ce que vous êtes en train d'éveiller à un âge très bas, c'est qu'elle n'est même pas encore en mesure de penser, de réfléchir, de comprendre. C'est un viol. Ce sont des attouchements. Parce qu'il y a des choses qui se passent que parfois les gens prennent pour...
De futilité, de banalité.
Mais qui sont des choses très conséquentes. C'est ça, des attouchements, c'est pas n'importe comment, c'est pas à n'importe qui. Vous pouvez le faire avec votre épouse à la maison aussi. C'est ça, mais pas...
Oui, mais il y a bien des cas. Nous savons que quand c'est des violences commises par des personnes extérieures qui ne vivent pas avec vous en famille, le problème est parfois si grave et il est porté en justice sans problème. Mais quand il s'agit des personnes internes, donc des membres de famille, c'est-à-dire un oncle par exemple, qui viole sa nièce, donc c'est difficile que les familles puissent sortir de cette tanière-là, de leur tour d'ivoire. Donc on préfère garder silence par rapport à la culture, par rapport aux contraintes socio-culturelles. Donc on préfère se taire.
C'est malheureux. Et c'est que je crois que nous en avions parlé dans l'émission précédente, on a peut-être effleuré le problème. Peut-être à Kinshasa, les violences sexuelles sont ce que nous voyons de temps en temps à la télévision. Mais ce qui se passe dans les familles, c'est encore plus important peut-être que ce que nous savons. Et malheureusement, c'est garder secret pour ne pas ébruiter l'honneur de la famille. Parce que telle personne, celui qui prend en charge telle personne ou telle famille, il faut garder, il ne faut pas le dire. Mais je crois que le moment est venu, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas parce que dans notre culture, on ne parle pas de la sexualité qu'il faudrait épuiser le problème. Nous avons le droit d'en parler pour protéger nos enfants. Nous devons apprendre à nos propres enfants de dire non lorsqu'ils voient une violence sexuelle en train de venir. Les enfants doivent se rendre compte que leur corps leur appartient et personne n'a le droit d'utiliser ce corps comme il le pense parce que c'est lui qui le prend en charge. C'est comme ça que nous disons que la sensibilisation, elle doit continuer. Déjà merci à Radio Capi et avec tous les journalistes dans les maisons de presse et partout, il faut qu'on en parle, mais il faut aussi que toute la communauté puisse prendre aussi leur part de responsabilité pour en parler. Dans les églises, par exemple, à Kinshasa et dans notre pays, beaucoup de gens prient et ils font confiance à leur pasteur. Il faudrait aussi que dans les églises, on en parle. Parce que ça existe, ce sont des choses qui se passent.
C'est vrai que les pasteurs ont opinion sur les rues, mais généralement, des sujets pareils, quand ce sont des sujets tabous, hein, on n'en parle pas trop souvent dans
ce sens. Il faudrait casser ce tabou, c'est important, parce que les conséquences sont néfastes. Il faudrait aussi que les gens comprennent d'abord quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences?
Parce qu'à croire vos propos, madame, les conséquences sont énormes.
Sont très énormes. Très énormes. Sans vous couper la parole, je connais dernièrement, on m'a rapporté un fait, mais qui s'est déjà passé longtemps, où une fille qui accompagne sa tante mariée quelque part, cette fillette a été violée, et c'était la toute première fois qu'elle a été violée et rendue grosse.
Dommage.
Ben, jusque-là, c'est ce qu'on a constaté. Mais étant donné que on a gardé cela secret parce que le viol a été commis par le fils du mari de sa tante. Donc, il fallait garder le secret. Mais est-ce que cette fille a bénéficié d'un contrat? Est-ce qu'elle a pu avoir un kit PEP pour la protéger même de maladies? On ne sait pas.
Oui, quand vous parlez de kit PEP, c'est quoi?
Bon, kit PEP, ce sont des produits... Je ne saurais pas très bien l'expliquer, mais lorsqu'on donne le soin directement après les violences sexuelles pour protéger la fille et des IST ainsi que de
toutes maladies, alors Baptista Kalinda, vous êtes à Kambove, nous sommes là au Katanga. Bonjour Baptista.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Quelle est votre question?
Ma question est la suivante. Je voulais juste demander quel est le comportement qu'on doit afficher à la famille qui a été victime du viol.
Mais voilà, donc, madame, est-ce qu'il faudrait indexer la fille, il faudrait stigmatiser, mais voilà, donc, c'est des deux choses qu'il faut vraiment éviter. Hein.
Il faut éviter parce que elle est déjà une victime, et je crois, au cas où la famille ne sait pas comment se comporter, quelles sont les dispositions qu'elle doit prendre. Vous qui êtes à côté d'elle et qui savez ce qu'elle devrait faire, vous devriez l'accompagner, par exemple, l'amener où est-ce qu'elle doit porter plainte si l'auteur du viol est connu, et l'amener dans un centre de santé pour que la victime puisse recevoir le soin requis.
081 890 63 94 pour les appels et le 081 070 20 50 pour les SMS.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, donc, madame, nous revenons à vous et nous parlons, en fait, il y a quand même une question qui me taraude un peu à l'esprit. Je reviens sur les cliniques juridiques aujourd'hui parce que vous avez dit qu'il faut dénoncer. C'est vrai, il y a certains cadres qu'on a mis sur pied pour aider les victimes et les familles qui sont victimes de pouvoir porter l'affaire en justice. Généralement, on n'a pas de moyens. On n'a pas assez de moyens pour aller en justice et raison pour laquelle certaines cliniques juridiques existent pour aider les plus démunis à atteindre quand même la justice. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, certaines personnes pensent que c'est une proche quand même qui réussit, mais quelle est la probabilité de réussite que vous donnez à ces cliniques juridiques? jusque-là, en tant que poste focal, vous avez pu...
Elle est encore infime, parce que par manque de connaissances. Mais je me rappelle, et j'ai aussi encouragé cette initiative, je me rappelle, dans ma paroisse, il y a eu un jour, nous étions après la messe, il y a l'abbé qui a donné un communiqué que les avocats d'une clinique juridique avaient laissé leur adresse pour que toute personne qui était concernée par un problème pouvait venir le voir. C'était gratuitement. Donc, c'est déjà une bonne initiative de venir, ces avocats viennent d'elles-mêmes vers la population. Parce que souvent, les gens n'osent pas sortir de leur cancan lorsqu'ils ont subi un préjudice, surtout de ce genre-là, pour aller vers les cliniques juridiques. Les autres auront honte ou bien que vont penser les gens. Mais lorsque les responsables des cliniques viennent d'elles-mêmes vers la population, vers les femmes, c'est déjà un problème, et qu'elles donnent leurs adresses, où est-ce qu'on peut les trouver. Parce que sinon, quelqu'un peut peut-être avoir envie d'aller porter plainte, mais elle ne sait pas où est-ce qu'elle doit aller. Elle ne connaît pas l'adresse, où est-ce qu'elle reste, où est-ce que cette clinique, on peut la trouver, je devrais m'adresser à qui. C'est aussi, c'est comme ça que peut-être le problème, les gens ne savent pas encore où est-ce qu'ils doivent aller.
Oui, mais j'imagine, madame, vous en tant que poste focal, protection et prévention des violences sexuelles au ministère des Affaires sociales, au regard des statistiques que vous avez et de la situation, au regard panoramique d'ailleurs de la situation sur les violences sexuelles, vous partagerez peut-être ce point de vue des observateurs que la situation elle est vraiment très déplorable à travers le pays.
Très déplorable, et surtout, bon, nous comme nous sommes, surtout dans le programme SAREC à l'est de la République, là, c'est vraiment effarant avec tout ce qui arrive, mais nous sommes concernés par toute la population de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que je disais, lorsqu'on a parlé de deux hommes puissants, moi je pense que chaque fois que je suis en train de discuter ou de réfléchir par rapport à ces problèmes de violence sexuelle, je me pose la question, où nous allons? Est-ce que ce qui nous arrive, ce phénomène, ce n'est plus de la délinquance, comme je disais, je crois que c'est devenu de la déviance. Nous sommes en train de sortir des normes pour dans une société...
C'est plus grave, le monde déclare que le RDC, c'est la capitale de viol.
C'est ça, mais nous devons... Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est comme si c'était une goutte d'eau dans l'océan. Pourtant, il y a une mobilisation de tous les acteurs, de nos partenaires qui sont en train de travailler aux côtés de la RDC, mais...
Et des moyens conséquents qui sont,
oui, qui sont mis
à disposition des acteurs pour aider, tant soit peu, à trouver une solution à ces problèmes qui est loin vraiment d'être trouvés. Alors, Vincent de Paul, Malou de Bounia, vous êtes dans la province orientale, hein, c'est Vincent de Paul, Malou, c'est comme ça son nom, de Bounia. Alors, Vincent, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, merci.
Voilà, alors, Vincent, quelle est votre question?
Ok, j'ai dit ceci, je me présente Vincent de Paul Malumalo, juge au tribunal de grande instance de l'Ifori à Bounia.
Ah ben voilà, ça tombe à pic parce que vous êtes juriste.
Je suis juge au tribunal de grande instance de l'Ifori à Bounia.
Bah, est-ce que vous pouvez éclairer un peu notre latente par rapport à l'arrangement à l'amiable? Parce que on aimerait bien avoir une idée, hein, faire une idée sur les sanctions qu'en cours ceux-là qui s'évertueraient à pouvoir passer à l'arrangement à l'amiable en cas de violence sexuelle. Que dit la loi congolaise? L'initiateur a prévu quoi concrètement?
Ok, merci beaucoup. Notre contribution est celle-ci. Nous disons que les parties sont libres de trouver un arrangement à l'amiable. Il n'y a pas de sanction par rapport à l'arrangement à l'amiable. Mais nous précisons que le dit arrangement à l'amiable ne lie pas le ministère public. Ça, je le dis à l'intention de tous les violeurs qui nous suivent. Pensez que arranger à l'amiable les mettrait à l'abri de poursuites. C'est se tromper. Le ministère public est libre de poursuivre ad nutum, c'est-à-dire à tout moment, quiconque commettrait le viol. Il n'aura pas à nous brandir cet arrangement à l'amiable qui ne lie pas le ministère public. Voilà, c'est donc, pas notre contribution.
Oui, Vincent, si je comprends bien, le législateur n'a pas prévu l'arrangement à l'amiable en cas de violence sexuelle.
Il ne l'a pas prévu. Les parties sont libres. Mais si une fois que le ministère de l'État public est informé, à tout moment, il va déclencher l'action contre.
Et ça ne sera pas une circonstance aggravante.
Les circonstances aggravantes, d'ailleurs, elles sont légales. Elles sont déjà prévues par l'article 167 de notre code pénal libre second, qui dit que les enfants âgés de moins de 18 ans qui commettaient un viol, c'est à l'aide des violences déjà. Donc, c'est déjà des violences qui sont prévues par la loi elle-même.
Oui, mais non, éclairez un peu
l'arrangement à l'amiable n'a pas de conséquences par rapport au profit judiciaire.
Ok. Merci beaucoup, Vincent. Nous tournons du côté de Patrick, chef pour l'Équipuit. Bonjour, Patrick.
Bonjour, monsieur.
Oui, vous êtes au Bandundu. Quelle est votre réaction?
Je suis en train de poser la question sur la condamnation de l'arrangement.
Voilà, comme vous avez suivi les juristes, ça dit, c'est libre, hein, on peut s'arranger, mais c'est là, le ministère public ne veut pas tenir compte de cet arrangement à l'amiable. Donc, ce n'est même pas poursuivable, mais ce ne sera pas une circonstance aggravante. Mais le ministère public n'en tiendra pas compte.
Oui, le ministère public n'en tiendra pas compte, mais lorsque une femme mineure d'âge a été rendue grosse par le violeur, étant condamné, les parents qui se mettent ensemble pour permettre que la sociale puisse revenir en famille, du fait que la fille est grosse et qu'elle attend famille, ne voyez-vous pas que condamner d'emblée l'arrangement entre les deux familles pourrait mettre en péril la santé mentale de la fille qui porte la grossesse?
Merci beaucoup, Patrick, pour cette question, Madame Pénélombé. Là, les choses, c'est compliqué quand même. Nous sommes des Africains. Et quand la femme est grosse, hein, on ne discute même pas de la dot, on ne discute pas de quoi que ce soit, on attend qu'elle mette au monde pour revenir encore autour de la table. Mais quand même, pendant cette période-là, il est demandé à les deux familles de trouver quand même la paix sociale. Il faut quand même une paix entre les deux familles.
C'est comme je l'ai dit tout au début, cet arrangement fait semblant d'ignorer la victime. C'est un arrangement entre les familles. Mais vous vous arrangez peut-être pour que le violeur puisse prendre un mariage forcé sa victime. Quelle durée de vie vous donnez à ce genre de mariage?
Et quand l'enfant va naître, on lui dira, ben c'est la belle, c'est en fait la ton papa ou ton père et c'est en tôle parce que la belle famille. Le poursuit en justice.
Si on ne le poursuit pas, c'est-à-dire on accepte qu'il prenne la fille en mariage et que cette fille aille vivre un calvaire toute sa vie parce que c'est un mariage qui n'a pas été préparé. Le violeur est venu pas pour épouser, parce que quand on veut épouser une fille, on ne va pas.
La procédure.
Voilà. Donc déjà, c'est quelque chose qui ne peut pas être arrangé, parce que là, vous condamnez la fille à vivre un calvaire toute sa vie.
Merci beaucoup, Madame Pénélombé. Nous avons pas mal de réactions. Il y a, nous avons reçu une tapée, David, depuis Kinshasa, qui dit « Salut JR, dans les cas où c'est la femme qui prend les garçons de force, y a-t-il une loi ?» Pour ça, bon, ça peut être le garçon qui est mineur aussi. Alors, la femme qui le prend des forces. Alors, faut-il condamner d'emblée l'arrangement en cas de viol sur une mineure de 17 ans rendue grosse? C'était Patrick Dikikik, d'ailleurs, qui venait d'en parler. Voilà, donc, les deux dernières questions qui pourraient peut-être nous aider à conclure cette émission.
Si c'est avéré qu'une femme a commis un viol sur un garçon mineur, mais... le garçon aussi a droit à porter plainte.
Oui. Voilà, donc c'est pas restrictif, hein. C'est pas seulement pour les femmes.
Pas seulement pour les femmes.
Voilà, donc ça peut être aussi pour les hommes. Germaine Penelombé, vous êtes de Point Focal, protection et prévention des violences sexuelles au ministère des Affaires sociales. Merci d'avoir accepté de rendre service, en tout cas aujourd'hui, au cours de cette émission service, sur Radio Capi, et au bénéfice de la population. Nous vous retrouvons très prochainement dans un autre numéro.
Merci, Julien.